Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission de champion santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il est là notre champion, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Un bel accueil aujourd'hui.
Hein, pour une fois, ouais, un champion, c'est pas mal.
D'être gentil. Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré au changement de vie. À ceux qui rêvent le plus souvent en secret de tout envoyer balader pour se réaliser, pour réaliser vos aspirations les plus profondes. Alors justement, comment se prépare-t-on à tout changer? Faut-il se préparer justement pour décider de ne plus passer à côté de sa vie? Comment le faire? Vous verrez qu'il faut parfois accepter ses fragilités pour reprendre le pouvoir et vivre pleinement. Pour nous éclairer sur ce sujet, qui est quand même la quête de toute existence, nous recevrons Saverio Tomasella. Il est psychanalyste et docteur en psychologie. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Jimmy nous fera un point sur l'impact des réseaux sociaux sur notre vie. Il nous expliquera que limiter la durée que l'on passe dessus est très important pour notre santé globale, particulièrement chez les jeunes. Enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de l'influence, s'il y en a une, du cycle hormonal sur la sexualité et la libido des femmes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Jean-Pierre. Écoutons-la.
Allô, bonjour. J'aurais voulu poser une question pour en savoir plus sur la vitamine B12. Voilà, je vous remercie de pouvoir me renseigner. Merci, au revoir.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour votre question. Alors Jimmy, j'ai l'impression que c'est une vitamine à la mode parce que, enfin en tout cas ici, on en parle souvent. On a déjà eu une question il y a peu de temps sur ce sujet. D'abord, rappelez-nous ce qu'est la vitamine B12.
Alors tout d'abord, il faut rappeler ce que c'est qu'une vitamine parce qu'on entend souvent, mais on ne sait même pas ce que c'est. La vitamine, c'est une forme de nutriment qui ne peut pas être apporté par le corps humain. C'est-à-dire que vous avez besoin de l'alimentation.
On ne la sécrète pas naturellement.
Exactement.
Quoi.
Vos organes ne peuvent pas la produire et donc on a besoin de l'alimentation pour en avoir. La vitamine B12, elle est essentielle dans plein de fonctions, dans la division cellulaire, c'est-à-dire au bon fonctionnement des cellules, mais elle sert aussi à la fabrication des globules rouges qui vont fabriquer ensuite l'hémoglobine pour justement ne pas souffrir d'anémie. Mais on sait aussi que ça va être important pour la régulation au niveau des nerfs. Elle va former ce qu'on appelle la myéline. La myéline, c'est la gaine
ouais,
qui va entourer les cellules nerveuses et les nerfs.
Vous avez vu, je retiens ce que
nerfs.
Vous dites. Hein, moi,
exactement. Vous progressez de jour en jour, Mélanie Gomez. Et donc, sans cette vitamine, évidemment qu'on peut avoir des petits soucis de santé.
Alors justement, quels sont les symptômes si on est en carence de B12?
Alors tout d'abord, la carence, elle est fréquente chez des personnes qui vont être véganes, végétaliens, qui vont exclure toute source de protéines animales.
Moins de risque chez les végétariens, hein,
exactement,
c'est ça, qui consomment des œufs, du poisson.
Exactement. Et puis on sait qu'à partir d'un certain âge, votre acidité dans l'estomac va perturber l'absorption de cette vitamine. Certains traitements peuvent faire aussi que vous êtes en carence, notamment les médicaments contre le diabète, je pense à la metformine. Et donc vous pouvez avoir de l'anémie à ce moment-là, ou des signes neurologiques, puisque je vous ai dit que la vitamine B12 était essentielle au fonctionnement des nerfs. Et donc vous pouvez avoir des espèces de fourmis au niveau des doigts, ce qu'on appelle des paresthésies, des symptômes neurologiques qui sont tout à fait atypiques et qui doivent amener une consultation.
Est-ce qu'on peut faire un dosage sanguin pour savoir si on manque de B12?
Oui, on fait une prise de sang. Alors, on va le faire chez des personnes qui vont exclure justement
les véganes,
exactement. Des gens qui vont avoir, qui ont été opérés de l'estomac, vont manquer de vitamine B12 puisqu'on a besoin d'un facteur qu'on appelle le facteur intrinsèque qui est synthétisé au niveau de l'estomac pour absorber cette vitamine. Donc, on fait une prise de sang pour vérifier que vous n'avez pas d'anémie, une hémoglobine. Et si jamais vous avez une anémie, on va chercher à savoir pourquoi. Est-ce que vous manquez de fer, de vitamine B12, de folate? Et à ce moment-là, on a le diagnostic.
Dernière petite question. Si on en manque effectivement, il y a des suppléments. On en trouve dans quel aliment?
On en trouve dans quasiment toute l'alimentation. Les viandes, les poissons, donc le foie de veau, le hareng.
Vous donnez tout ce que je déteste. Bon, d'accord.
Le steak. Okay. Il y en a dans le steak. Vous avez dans les poissons, le thon, le saumon, les œufs, le fromage, le yaourt, dans toute l'alimentation. Et sinon, sous forme de comprimé ou d'ampoule, ça marche aussi bien.
Très bien, Jimmy. On va passer tout de suite à une autre question, celle que nous a laissée William sur notre répondeur. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une question à vous poser. Je fume depuis plus de 30 ans et je me demandais, est-ce que ça sert vraiment quelque chose que j'arrête de fumer maintenant, ou alors est-ce que le mal est fait? Merci pour votre réponse.
Bon Jimmy, moi je suis sûre, parce que vous êtes quelqu'un de positif, que vous allez dire à William que même après 30 ans de tabagisme, c'est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer ou même de boire. Tout ce qui va vous rendre malade doit être arrêté. Si vous en avez la motivation, puisque ça va être bon pour votre capital santé sur le court, le moyen et le long terme.
D'accord, on ne peut pas lui garantir qu'il n'aura pas de pépins de santé à cause de ça, parce que 30 ans de tabagisme, bien sûr que ça peut avoir un impact. Mais il faut savoir aussi que l'arrêt du tabac, dès quasiment le premier jour, il y a des bienfaits. Hein.
Dès la première minute quasiment,
minute,
au bout de 20
carrément.
Minutes,
voilà.
Votre tension artérielle artérielle et la fréquence cardiaque rediminue. Au bout de 24 heures, plus de monoxyde de carbone dans votre sang et dans vos poumons. Au bout de quelques semaines, deux semaines, risque d'infarctus qui diminue et qui passe à moins 50% au bout d'un an. C'est extraordinaire. Et puis au bout de quelques années, au bout de 10 ans, on diminue par deux le risque de cancer du poumon.
Ça vaut le coup, mais
donc,
c'est
évident. Donc il faut s'arrêter de fumer. Sans parler de l'odorat, du coût financier.
De la peau qui va être magnifique. Exactement. Je peux témoigner de tout ça. Hein. D'un an et demi de sans tabagisme, mais ça va beaucoup mieux, bien sûr. Jimmy, par contre, se faire aider, c'est très important.
Oui, 70% de chances en plus de réussir votre sevrage s'il y a l'accompagnement, quel qu'il soit, le généraliste. Tabac Info Service au 39-89, les substituts nicotiniques, la cigarette électronique, la sophrologie, l'acupuncture, ce que vous voulez.
Arrêtez.
Exactement. Motivez-vous, ça va marcher.
On peut y arriver. C'est pas facile, hein, j'en témoigne, mais c'est possible. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme William qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité du jour, c'est Saverio Tomasella. Il est psychanalyste et docteur en psychologie et il vient nous prendre par la main cet après-midi pour arrêter de passer à côté de notre vie. Si vous pensez qu'il est grand temps justement de vivre, qu'il est inutile d'attendre, ce qui va suivre va vous passionner. On vous propose une invitation à s'accomplir aujourd'hui et c'est dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir aujourd'hui en studio notre invité du jour, c'est vous Saverio Tomasella, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes docteur en psychologie, psychanalyste et l'auteur du livre Ne passez plus à côté de votre vie, paru chez Flammarion. Alors pour commencer Saverio, cette émission sur les changements de vie, est-ce qu'on peut vraiment changer de vie? Parce qu'après tout, on n'en a qu'une, alors on ne va pas en avoir une deuxième, une troisième, une quatrième, enfin, je ne sais pas.
Ben oui, effectivement, vous avez mille fois raison. C'est pour ça que je dis ne passez plus à côté de votre vie. On ne change pas de vie, mais on peut changer l'orientation de sa vie. On peut l'enrichir, on peut changer certaines modalités de sa vie et notamment ses conditions de vie.
Et est-ce qu'on est nombreux à penser qu'on est passé à côté de notre vie ?
Je pense que je suis sûre que c'est un truc hyper français en plus, mais je ne sais pas, dites-moi.
Alors, curieusement, il y a eu en 2018 une enquête faite par Europe 1 qui dit que 47% des Français à l'époque avaient l'impression de passer à côté de leur vie.
C'est beaucoup, hein ?
Et je voudrais mettre ça en parallèle avec les 15% de personnes aux États-Unis qui prennent des antidépresseurs tous les jours, et ce chiffre augmente chaque année, et les 20% de personnes en France qui sont heureuses dans leur travail, c'est-à-dire que 80% des employés et des salariés ne sont pas contents dans leur travail.
Mais ça fait quand même une grande partie oui. de la vie. Alors quand on dit changer de vie, ça veut dire quoi là, là vous dites 47% des Français disent vouloir changer de vie, ils veulent changer de quoi? De boulot, de mari, d'orientation sexuelle, on peut changer de plein de trucs. Hein.
Mais justement c'est ça, la plupart du temps c'est changer de travail. Alors pas forcément changer de métier, encore qu'il y a des personnes qui vont faire de nouvelles formations au cours de leur vie pour pouvoir changer de métier. C'est changer de travail, donc d'entreprise. Ça peut être changer de quartier dans une ville qu'on apprécie.
Ça, c'est moins risqué. Hein,
c'est moins risqué, mais enfin c'est déjà un changement. Ça peut être changer de région, de pays, ça peut être changer de partenaire amoureux.
Là, on va dans des trucs de plus en plus difficiles.
Effectivement, il y a des changements d'orientation sexuelle en cours de vie. Ça peut être vouloir avoir des enfants, alors que jusqu'à présent, on disait des enfants, moi jamais. Il y a des personnes qui arrêtent de pratiquer une religion.
Pour une autre ou pour
une
aucune.
Autre, ou pour rien, ou d'autres qui commencent à pratiquer une religion alors qu'ils étaient athées ou ne pratiquaient pas de religion. Il y a énormément de changements possibles.
Mais est-ce que c'est forcément des gros changements? Parce que tout ce que vous dites, changer de pays,
de
religion...
De quartier, je suis sûr que vous pouvez le faire. Parce que vous, j'imagine que vous n'aimez pas trop les changements. Je ne sais pas pourquoi.
C'est vrai, je suis un peu plan-plan. J'aime pas beaucoup changer. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, il y a des petits trucs comme ça où on peut dire on va faire un changement sans tout bouleverser notre
quotidien ? Oui, tout à fait. Justement, on peut changer des petites choses qui vont finalement changer la donne, comme changer son alimentation, arrêter de fumer, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça, c'est
on l'a bien encouragé,
ou de boire.
Ouais, c'était bien.
Ce sont des genres de changements qui vont ou commencer à pratiquer un sport, se mettre à marcher, etc.
Ça, c'est déjà un changement de vie.
Oui, c'est déjà un changement de vie parce qu'après...
Être plus gentil, Jimmy, aussi, avec
exactement,
moi, par exemple.
Exactement, on peut cultiver la bienveillance, l'empathie, toutes sortes de choses qui font que, de toute façon, ces petits changements vont amener à une vie meilleure.
Est-ce qu'il y a un âge type pour vouloir comme ça changer de vie? On parle souvent de la crise de la quarantaine, mais je ne sais même pas si elle existe, cette crise, ou
alors,
pas.
Justement, merci Mélanie, parce qu'on nous a fait tout
J'ai 38 ans, alors ça m'intéresse beaucoup. Hein.
On a fait beaucoup de bruit il y a une dizaine d'années sur la crise du milieu de vie, et en fait, on s'est rendu compte que, bon, elle n'existe pas tant que ça.
Ouf.
Mais il y a des crises de plusieurs moments de la vie, c'est-à-dire il y a des moments de la vie où, particulièrement, on va se poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai envie de donner autour de moi? Et à ce moment-là, on peut... amorcer un changement de vie, mais ça peut être dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine ou plus tard.
Pas de règle.
Non.
Comment est-ce qu'on fait la différence entre un changement de vie et un fantasme ou un rêve qu'on pourrait avoir et qu'on a tous? Parce que parfois, la frontière entre les deux, elle n'est pas tout à fait claire.
Oui, c'est une question importante parce que, par exemple, dans les fantasmes, il y a l'influence et les conditionnements de la publicité. Si, par exemple, je dis je vais aller vivre aux Maldives parce que là-bas, ça va être la belle vie tout le temps, je vais jouer au loto pour avoir 200 000 euros ou 300 000 euros et pouvoir partir vivre aux Maldives ou à Hawaï, eh bien, c'est un fantasme. C'est quelque chose qui est construit, qui est une illusion à laquelle
Mais c'est pas un désir profond.
C'est
quoi,
pas
c'est
un désir profond.
De la si même... J'adorerais aller à Bora Bora, mais...
Oui, mais peut-être pour des vacances, pas forcément pour y passer 30 ans. Mais de la même façon, si j'ai grandi en banlieue, dans une famille d'ouvriers, que j'ai été humilié souvent à l'école parce que je suis d'origine étrangère, etc., ou que mes parents étaient pauvres, je peux avoir un fantasme de revanche sociale qui est de construire mon entreprise ou d'avoir des grosses voitures,
ça,
etc.
Ça, ce n'est pas un changement de vie, c'est une revanche.
Et bien là, même si ça va être formidable pour la personne qui change de milieu social et qui réussit, pour autant, ça ne répond pas forcément à un besoin profond, à un désir profond. Donc, on a intérêt à aller lentement pour essayer d'écouter nos désirs qui nous ressemblent à nous seuls et qui ne correspondent pas à ce que la société voudrait nous imposer.
Là, on essaye donc de parler aujourd'hui des changements de vie. Comme on a l'impression, quand on le dit comme ça, que c'est quelque chose de brutal, mais finalement, c'est normal de changer de vie, non ? Vivre, c'est de toute façon, chaque jour, évoluer, changer, mettre fin à des habitudes, en prendre des nouvelles. Enfin, on change de vie un peu tout le temps, déjà.
Mélanie, vous êtes très en forme.
Oui, je dors bien, je mange bien, je fais du sport, enfin, c'est super, tout va bien.
Ça ne se voit pas encore, mais...
Ça va venir, moi je le vois.
Oui, parce que c'est la clé, ça.
C'est ça.
De comprendre qu'en fait, la vie est une forme d'impermanence et qu'on est tout le temps en train d'évoluer, de se modifier, de changer. Et que finalement, c'est en accompagnant ces modifications de notre vie au quotidien, nos amitiés peuvent évoluer ou changer, nos goûts peuvent évoluer ou changer, etc. C'est comme ça, finalement, qu'on est vraiment dans sa vie.
Mélanie a raison. Le changement, ça me fait peur. Et pourquoi est-ce qu'on a peur du changement ?
Alors, peut-être déjà parce qu'on est bien dans sa vie actuelle. Moi, ce que je dis, c'est de ne passer pas à côté de votre vie. C'est pas forcément changer de vie. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans votre vie, que vous êtes heureux
on a le droit d'aller très bien. Vous avez le droit de ne pas vouloir changer parce qu'elle est parfaite.
Voilà.
Trois enfants, une épouse merveilleuse. En même temps, je vous comprends.
Tout va bien.
Franchement.
Une bonne émission à la radio.
En plus, une super collègue tous les jours.
Donc, comme 53% des Français, vous avez bien l'impression d'être dans votre vie à vous. Il n'y a pas besoin d'essayer d'améliorer quelque chose ou d'en changer.
Mais pour les autres.
Sinon, pour les autres. Ce qui peut faire peur, c'est la nouveauté, l'inconnu, comment je vais faire, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je vais avoir les moyens, bien sûr, est-ce que mon épouse ou mon époux va suivre, est-ce que mes enfants vont comprendre, mes parents, etc. Donc il y a énormément de facteurs qui font pression.
Finances aussi, non ? Parce que parfois, changer de métier, ça veut dire perdre aussi en pouvoir d'achat, par exemple.
Exactement, c'est un choix important. Donc tous ces éléments vont faire pression sur le fait de ralentir les décisions vers une orientation de sa vie, vers quelque chose qui nous ressemble plus.
Et puis certains peuvent aussi souffrir de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, ça veut dire oulala, de toute façon c'est pas pour moi, je suis pas compétent, enfin ça peut aussi bloquer. Hein.
Alors ce syndrome de l'imposteur, il est très important parce que plus les années passent et plus je me rends compte, autant dans mon cabinet qu'en discutant avec des collègues ou des journalistes, qu'il concerne énormément de personnes qui ne se croient pas à la hauteur, qui ont l'impression.
Souvent des femmes, moi j'ai l'impression. Hein.
Pas que.
Alors ouais, peut-être des hommes
plus,
aussi.
Peut-être plus. On est encore dans une société un peu machiste, donc peut-être plus les femmes, mais néanmoins il y a des hommes aussi, donc femmes et hommes qui ont l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur, sont pas capables, ne sont pas à leur place. Ou ne vont pas y arriver. Et tout ça les démotive, les décourage avant même d'avoir pris la décision de changer quelque chose dans leur existence.
Bon, vous allez nous aider à en être capable, Saverio. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, on vous invite cet après-midi à ne plus passer à côté de votre vie, si c'est l'impression que vous avez, en tout cas, parce qu'on a le droit, bien sûr, de se sentir comme Jimmy, tout à fait à sa place. Et pour les autres, inutile d'attendre, et vous pouvez commencer dès aujourd'hui, puisqu'en plus, c'est notre slogan sur Europe 1. On écoute le mot de changer, on vous aide donc à changer. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité, c'est vous, Saverio Tomasella. Vous êtes docteur en psychologie, psychanalyste et l'auteur du livre Ne passez plus à côté de votre vie, paru chez Flammarion. Alors Saverio, certains de nos auditeurs n'y avaient peut-être pas pensé jusque-là, mais cette émission se dit, ils se disent du coup, moi aussi, est-ce que je passe pas à côté de ma vie ? Alors ne vous inquiétez pas, ne devenez pas tous anxieux, c'est pas grave, on va voir les choses justement. Qu'est-ce qui doit se faire dire, quels sont les signes qui doivent se faire dire aux gens qui se disent là, ah tiens, peut-être que moi, que oui, ils ont besoin de changer.
Alors déjà, surtout pas d'anxiété, c'est pas
ça,
la peine.
C'est pas ça qu'on veut donner aux gens, c'est des conseils,
au contraire. Eh bien, ça peut être l'impression de trop travailler ou de faire tout pour les autres, ou on est proche d'un burn-out, on a déjà vécu un burn-out, on a une immunité moins grande, on se dit qu'est-ce qui se passe, ou on a un sport qu'on aimerait faire, on ne l'a pas fait, on se dit serait peut-être temps, ou faire du théâtre, chanter, danser, etc. Des amis qu'on ne voit pas assez, ou la famille qui nous dit « Eh oh, quand est-ce que tu nous téléphones ?» C'est toujours nous qui faisons les... Il y a un petit déclic, quelque chose qui nous montre que finalement, on n'est pas complètement dans ses baskets.
Est-ce que ce n'est pas lié au fait que parfois, on a l'impression que notre vie est trop basique, métro, boulot, dodo, que c'est un long fleuve tranquille.
Surtout dans le contexte actuel, c'est pas facile.
On n'a pas trop de distractions et que finalement, on aspire à un peu de changement.
Alors oui, c'est quelque chose de l'ordre de l'ennui, de la monotonie ou d'une satisfaction un peu insatisfaisante. C'est-à-dire qu'on est satisfait, mais pas complètement. Et effectivement, là, depuis mars 2020, pas de restaurant, pas de sortie, etc. Ça nous pèse. Parfois, il s'agit...
On est anxieux, mais on s'ennuie aussi. Parce qu'on
voilà,
peut
c'est
plus,
ça, c'est du côté de l'ennui.
De
on a besoin,
avec des amis. Enfin,
on a besoin de faire des choses qui
nous... La vie culturelle, elle a disparu. Enfin,
qui nous distrait, tout simplement.
Il y a beaucoup plus de gens en ce moment, vous pensez, qui ont ce besoin ou ce désir qui commence à émerger de tout changer.
Alors, de
même si c'est pas peut-être tout de suite qu'on va changer, parce que justement le contexte actuel facilite pas les changements. Mais bon.
Bon, cela dit, durant le premier confinement, on pensait qu'on allait pouvoir tout changer parce qu'on se disait il n'y en aura qu'un.
Voilà,
il
je vais faire du pain, vague. Je vais fabriquer mes propres. Mais bon, ça va pas durer longtemps. Hein.
Voilà. Donc il y a eu cette vague et puis finalement on s'est rendu compte que c'était pas si facile et puis que la pandémie a duré plus longtemps qu'on croyait. Et donc là on est plus effectivement dans une phase de modestie en se disant j'ai de nouveau envie d'aller au restaurant, de nouveau envie d'aller au théâtre, au cinéma, etc. Ou de voir des amis. Et de sortir le soir quand on pourra, qu'il n'y aura plus de couvre-feu. Donc c'est peut-être plus par là que ça va recommencer, par des choses toutes simples qui sont de l'ordre de la convivialité.
Est-ce que cette quête de la satisfaction ne passe pas par une quête du sens ? J'ai vu des gens changer radicalement de métier, un métier où j'étais plutôt bien payé, plutôt stable, marié ou en couple, avec ou sans enfant, un appartement, qu'ils étaient propriétaires. Et puis tout d'un coup, ils ont dit non, mais j'en ai marre, je vais devenir cuisinier, je vais devenir décorateur, je vais moins gagner, c'est pas grave, ça va être plus dur, je vais me lever plus tôt. Mais je veux changer. Est-ce que la quête du sens peut être un déclic ?
Oui, la quête du sens est très très importante parce qu'au début, on fait les choses bien pour soi, pour gagner sa vie, avoir un appartement, une voiture, partir en vacances ou pour ses parents, sa famille, ses professeurs. Mais il arrive un moment où on se dit, j'ai envie de faire les choses pour moi. Qu'est-ce qui a du sens pour moi ? Quelles sont les valeurs que j'ai envie de défendre ? Dans quel monde j'ai envie de vivre ? Dans quel monde j'ai envie de construire ? Et ça peut amener à des changements d'activité professionnelle pour aller justement vers des métiers qui ont du sens.
Dans votre livre, vous expliquez que l'un des signes qui montre que c'est le moment peut-être de changer, c'est la fatigue, vous parlez même d'épuisement. Et attention, on ne parle pas de déprime, c'est vraiment des gens fatigués.
Oui, et c'est important de bien faire la différence entre la déprime, voire la dépression, et simplement la fatigue, la lassitude, le fait qu'on se dévitalise. Je consacre beaucoup de temps dans le livre à parler de l'énergie vitale et de la dévitalisation, c'est-à-dire si je vis dans un environnement où on me critique tout le temps, je me dévitalise, je vais pas forcément être déprimé, mais je perds mon énergie, je perds mon entrain, je perds mon élan. Et bien c'est pareil, de façon moins forte, mais c'est pareil avec trop de monotonie, trop de routine. Quand on commence à s'ennuyer, et bien petit à petit,
on
a moins de goût de vivre. Mmh. Et finalement, pour moi, c'est ça la clé, c'est le goût de vivre. Tout ce qui va me donner cette saveur, cet élan, cet enthousiasme, cette ferveur. Et on a besoin de cultiver la ferveur, et bien ça, c'est du bon côté de la vie.
Quelque chose qui peut amener à passer à côté de sa vie, ce sont les moqueries, les critiques. C'est un truc un peu français, ça.
Alors oui, c'est important qu'on s'en rende compte.
Vous avez l'exemple d'une fille à New York,
oui,
je crois, pour
vous
faire le parallèle.
Eh bien, j'ai une amie dont la fille est à New York depuis quelques années, une amie parisienne. Chaque fois que sa fille revient à Paris, elle lui dit « Tu sais, maman, il y a une très grande différence entre les Américains et les Français. C'est qu'aux États-Unis, quand tu dis « J'ai une idée, j'ai envie de faire ça », les autres te disent « Waouh, ouais, bonne idée, vas-y, montre-nous comment tu vas faire. » Mais montre-nous comment tu vas faire de façon très encourageante.
Ouais.
Alors que quand elle arrive à Paris et qu'elle parle de ses idées, tout le monde la critique. Donc elle dit, mais c'est pas possible, comment vous faites vous ici, si chaque fois qu'on a une idée,
pouf,
on vous casse votre idée,
ouais.
Et ben voilà, donc ça fait qu'on perd son élan, perd son entrain.
D'accord, et les remarques dévalorisantes, ça nous pousse justement à nous replier. On retourne finalement notre colère contre nous, et puis s'il n'y a rien de productif derrière, en fait.
Alors,
c'est ça.
Effectivement, là, il y a deux phénomènes psychiques importants. Le premier qui est lié à une hormone dont j'ai parlé déjà la dernière fois, qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, de la bonne humeur, mais aussi du fait de se sentir bien. Cette hormone, elle chute quand on est critiqué. On a des études maintenant qui montrent que face à une critique, ce sont des études qui ont été faites d'abord sur les singes, puis sur les humains, on a une chute entre 60 à 80% du taux de sérotonine. Ce qui veut dire que si on est pour l'éducation positive, l'éducation bienveillante, et pour la bienveillance dans les rapports humains, ce n'est pas simplement une question morale ou une question de valeur, c'est aussi du point de vue physiologique.
On devrait faire des t-shirts, laisse ma sérotonine tranquille, ne me critique pas.
Voilà. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'on soit encouragé, soutenu, ou qu'à la limite, si on n'est pas d'accord, on nous laisse tranquille, ou dans un vrai débat d'idées, chacun dit ce qu'il pense, mais sans critiquer l'autre, et de voir que chaque fois qu'on est dévalorisé et critiqué, eh bien finalement, il y a cette chute d'une hormone fondamentale chez nous.
Et ça commence donc dès l'enfance alors. Vous parlez d'éducation positive, mais un enfant qu'on va tendance à rabaisser, t'es mauvais, t'es nul à l'école parfois.
Sans parler même ceux qui sont maltraités complètement.
Évidemment, hein, mais les punitions aussi, tout ça, ça peut avoir une influence.
Évidemment, effectivement, les sanctions, les punitions, les critiques acerbes de ce genre, les dévalorisations, elles ont un effet contraire à la bonne éducation qu'on appelle donc positive maintenant ou bienveillante, qui est une éducation du soutien, de l'encouragement, de l'écoute, d'aller au rythme de l'enfant et de lui laisser progressivement découvrir ses propres ressources, ses propres capacités en les développant.
Puis comme ça, on leur évitera d'avoir envie de changer plus tard, ils vont s'épanouir tout de suite. Et
exactement.
Ils resteront avec vous, Mélanie, jusqu'à 50 ans, votre fils ne bougera pas, vous inquiétez pas.
Sans avoir besoin de fumer ou de boire.
C'est ça, Saverio. On va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission consacrée au changement de vie. Comment s'y prendre très concrètement pour ne plus passer à côté de ses aspirations profondes? On va vous expliquer tout ça dans le détail. Donc si le changement, c'est maintenant et c'est sans rendez-vous, restez bien avec nous, on va vous guider sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et nous accompagne cet après-midi. C'est vous, Saverio Tomasella. Vous êtes docteur en psychologie et psychanalyste. On va passer dans cette partie à la réalisation de nos changements de vie, parce que depuis tout à l'heure, on parle un peu, on explique ce que c'est, quels sont ces désirs profonds, ce qui nous anime dans ces changements. Mais comment on fait, comment on passe à l'acte? Est-ce qu'il faut forcément au départ un électrochoc? Il y a un petit truc, un petit déclic, vous disiez tout à l'heure.
Alors, pour les petits changements dont on parlait tout à l'heure, non, parce qu'on peut effectivement, au fur et à mesure, changer d'alimentation, comme on le disait, faire une pratique sportive.
Mais pour un gros truc,
oui. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont eu un accident, qui ont vu leur vie dérouler sous leurs yeux, ou alors une annonce de maladie. Alors, j'ai un ami comme ça qui était en Espagne, qui a eu une agression physique importante. On lui a volé son argent en le frappant. Il est allé à l'hôpital, et à l'hôpital, on lui a dit « Mais vous avez un cancer des poumons, il y a des tâches sur vos poumons, vous n'en avez pas plus pour un an. » Et il s'est dit « Alors, je n'ai plus qu'un an à vivre, qu'est-ce que je fais ?» Et comme il adore la musique, il s'est dit « Ben voilà, pendant l'année qui me reste à vivre, je vais faire plein de musique. » Rentré en France, il a repassé une radio, il n'y avait rien du tout sur ses poumons.
Oh,
c'était un problème de la radio
dans
l'hôpital espagnol. Mais il s'est dit « Si, face à ma mort, j'étais prêt à faire de la musique. » Donc maintenant, il est auteur, compositeur, interprète. Donc ce choc a fait qu'il a vraiment changé.
Ça me fait des frissons partout, j'ai envie de pleurer, c'est horrible. Mais en même temps, ça finit bien, ça finit bien.
Franchement, même moi, vous m'avez séché. Alors pourtant, j'en ai eu des histoires. C'est triste, c'est dur, malheureusement. Bon, mais on apprend une petite morale. Bon, alors comment rebondir là-dessus?
J'ai mis un faux diagnostic et ça repart.
Exactement.
Quoi. C'est ça, c'est incroyable.
Alors, parfois, les changements de vie, on ne peut pas forcément les réaliser puisqu'on a un compagnon, une compagne qui ne va pas forcément dans le même sens. Comment est-ce qu'on fait? On doit négocier, patienter, trouver un compromis?
Alors, si c'est un gros changement, oui, être patienté.
Changer de région, par exemple, c'est un gros changement.
Le temps.
Oui, les Parisiens qui ont marre de la grisaille, qui veulent aller voir nos amis du Sud.
Mais les deux ne sont pas d'accord, comment ça se passe?
Qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, d'abord, je dirais qu'il y a la réalité économique. Hein, c'est gagner sa vie, payer son loyer, à manger, les études des enfants, etc. Après, peut-être ne pas idéaliser, parce que c'est facile d'idéaliser une région dans laquelle on ne vit pas. Moi aussi, j'ai grandi à Nice, j'habite à côté de Chartres, c'est pas le même climat, mais néanmoins, je sais que j'ai longtemps idéalisé le sud de la France, alors que ça n'est pas idéal, pas plus idéal qu'ailleurs. Et puis, sinon, on négocie, on prend le temps, on décide d'un commun accord, on fait des compromis, et puis on voit, parfois, on trouve une troisième option, qui est ni celle du premier ou
entre
de l'autre.
Entre Chartres et Nice, il y a bien quelques villes, donc on peut trouver. On a vu pendant le premier confinement, notamment, qu'il y avait eu plein de changements de vie. Alors ça allait de ceux qui se sont mis à fabriquer leur propre pain jusqu'à des gens qui ont voulu changer parce qu'ils avaient un petit appartement en ville, partir vivre à la campagne.
Vous êtes un potager, Mélanie.
Oui, mais je l'ai gardé en ville. Enfin, j'habite dans une ville, mais j'ai réussi à récupérer un petit potager. Donc ça, c'était très chouette. On l'a gardé. D'ailleurs, on est toujours dessus. Mais pour beaucoup, ça a fait pchit. Il y en a plein qui, pendant ce premier confinement, se disaient allez, on va déménager, on cherche des maisons, ils sont sur les sites immobiliers, tout ça. Puis bon, finalement, ils sont toujours là où ils devaient être. Et pourquoi ça a fait pchit aussi vite?
Alors, il y a une chose, c'est qu'on est très, très vite repris par nos habitudes. Les conditionnements de la vie, le rythme comme on disait, métro, boulot, dodo. Déjà, le simple fait d'aller au travail, de prendre les transports en commun, de rentrer, de se faire à manger, de passer une soirée avec son conjoint, etc., ou ses enfants, et de dormir, ça rythme déjà la vie. Et puis, il se trouve que les chercheurs en neurosciences ont découvert que notre cerveau est conservateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous créons, au fur et à mesure de notre vie, des connexions neuronales que nous empruntons souvent, et que celles que nous empruntons le plus, maintenant on les appelle même des autoroutes neuronales, eh bien finalement, on est tellement habitué à ces façons de faire que notre cerveau a une petite paresse pour changer ses habitudes. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Que si on veut changer de vie ou quelque chose dans sa vie, on doit accepter une phase d'apprentissage pour le cerveau, comme si on apprenait une langue étrangère, ou si on apprenait à conduire, ou si on apprenait un nouveau sport.
Et est-ce qu'une relation amoureuse peut aussi bouleverser notre vie, en tout cas les changements qu'on peut prendre dans celle-ci ?
Ce sont les plus beaux témoignages de changement dans la douceur, la passion amoureuse, le fait d'aimer quelqu'un de différent, d'un milieu différent, d'une religion différente, d'une culture différente, etc., etc., ou qui a simplement des habitudes de vie différentes et qui font que naturellement, on va s'adapter à une nouvelle façon de vivre sans s'en rendre compte.
Est-ce que ça se prépare, un changement de vie, puisqu'on est dans le concret à présent ? Je veux dire, un gros changement, pas bon, arrêter de fumer, oui, cela dit, on peut se préparer aussi, mais un gros changement, je ne sais pas, changer de pays, changer complètement de voie professionnelle, est-ce que c'est un truc qu'on peut faire sur un coup de tête, ou vous conseillez quand même, ben, je ne sais pas, de réfléchir, de se poser, d'en parler à quelqu'un, un professionnel même peut-être ?
Alors, sauf cas rare, comme par exemple quand on est largué et que ça se fait brutalement.
Et qu'on n'a pas le choix, il nous faut les valises dehors, il faut partir, voilà.
Là, on est bien obligé de se débrouiller comme ça. Mais sinon, oui, ça se prépare. Et le mieux, c'est de prendre le temps d'en parler à ses meilleurs amis, si nécessaire, d'en parler à un psy, même si on n'est pas déjà en thérapie. Le simple fait d'aller pour quelques séances parler d'un changement important, c'est mieux parce que ça permet de prendre du recul, de faire les bons choix et de se donner les moyens de réussir ce changement.
Alors, vous dites qu'on peut parvenir à changer notre existence en retrouvant notre enfance. Les rêves d'enfant, sans souvenir, ça peut aussi servir de déclic ?
Oui, par exemple, la question « à quoi tu rêvais quand tu étais gosse ?» Eh bien, si vous vous la posez, comme ça un jour tout seul face à vous-même, vous verrez que c'est pas mal. Parce qu'effectivement, quand on était tout petit, on avait des rêves assez fabuleux.
Pas de filtre, on pourrait rêver de
Exactement, on était sans filtre, on était sans conditionnement, on était avec l'innocence de l'enfance. Et finalement, se reconnecter à ça, quelles étaient nos aspirations
vous
d'enfant.
Vous vouliez faire quoi, Jimmy, enfant ?
Être Indiana Jones.
Ben voilà.
C'est un peu loupé, là, quand même. Je voulais être danseuse étoile, mais je fais de la danse, vous voyez.
Effectivement.
Le fait de se reconnecter à l'enfance, ça aide à retrouver des aspirations profondes.
S'amuser, je crois que c'est important d'être moins sérieux. Le retour du plaisir, ça peut aider à changer aussi, ça.
Alors là, comme dans cette émission, on a beaucoup ri. Je trouve que c'est fabuleux, c'est très très porteur d'être dans la joie, la bonne humeur, de rigoler et de s'amuser, même en travaillant. En fait, ça nous rend plus créatifs et plus ouverts.
Et pour ne plus passer à côté de notre vie, vous nous conseillez aussi de nous balader dans la nature. Pourquoi ça ? C'est agréable, hein, mais pourquoi par rapport au changement de vie ?
Alors déjà, oui, la nature, elle est bonne parce qu'elle nous détend. Mais aussi parce que comme l'enfance, je pense qu'elle nous recentre sur l'essentiel. Et qu'au bout d'un moment, quand on marche au bord de la Seine ou en forêt ou dans un grand parc, au bout d'un moment, il y a comme une espèce de réharmonisation. C'est comme ce qu'on appelle « reset » en anglais, une réinitialisation de notre être qui fait que, pof, on y voit plus clair. Et tout ce qui semblait compliqué dans notre cerveau, tout d'un coup, ça prend sa place juste.
Alors qu'on peut considérer parfois à tort comme le sommeil, que ce serait une perte de temps. Mais il faut accepter de perdre ce temps finalement pour peut-être gagner plus derrière.
Alors oui, de toute façon, que ce soit la méditation, le sport, la marche dans la nature, ce n'est pas du tout une perte de temps. C'est comme vous le dites, le fait de se recentrer, de se ressourcer. En fait, on est beaucoup mieux après et on gagne du temps sur ce qu'on va faire après.
Dans votre livre, il y a un chapitre consacré à retrouver son corps dans lequel vous donnez plusieurs exercices pratiques afin de reprendre possession de ce corps, des exercices de respiration, notamment la méthode 7-5-3, c'est quoi ?
Alors ça, c'est très important parce que c'est la suite, c'est à la suite de plusieurs études qui ont été faites pour essayer de casser un mythe qui est « take a deep breath », c'est-à-dire « prends une grande inspiration ». Eh bien, en fait, ce n'est pas une bonne idée.
Vas-y, t'as quelque chose à faire de difficile, prends une bonne respiration.
Ben non.
Non, d'accord, ne faites pas ça, surtout ne faites pas ça.
Sauf si vous êtes un grand sportif, que vous allez courir un sprint, alors là, vous stimulez la production d'adrénaline dans votre corps pour réussir votre course sportive. En revanche, chaque fois qu'on est stressé, fatigué, inquiet, anxieux, angoissé, c'est le contraire qu'on a besoin de faire, c'est-à-dire que pour stimuler un nerf parasympathique qu'on appelle le nerf vagal ventral, on a besoin de plus expirer, plus longtemps, plus lentement, et de faire une petite pause après l'expiration, d'où les 7. Je souffle pendant 7 secondes à peu près, c'est pas rigide. J'attends pendant 5 secondes et je laisse l'air rentrer tout seul pendant à peu près 3 secondes. Je fais plusieurs cycles jusqu'à ce que je me sente calme et vous verrez, ça marche très très bien.
Autre astuce, c'est de s'inventer une devise dans la vie. Vous l'avez constaté autour de vous, chez vos proches qui avaient une devise. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Alors, par exemple, j'ai une amie qui a fait ses études à Paris et sa prof de philo disait « Faites ce que vous aimez, on viendra vous chercher ». Donc, c'était la devise qu'elle proposait à ses étudiants. Elle l'a mise en pratique et effectivement, elle fait ce qu'elle aime dans sa vie. Et chaque fois que quelqu'un est intéressé par ce qu'elle fait, on vient la chercher. Mmh. Ce n'est pas elle qui va chercher les autres. « Faites ce que vous aimez, on viendra vous chercher ». Paul McCartney, par exemple, « Let it be », sa devise qui a été donnée par sa mère dans un rêve, eh bien, il l'a mise en pratique. « Laisse couler, laisse la vie être ». Et chaque fois qu'il avait un souci, il pensait à ça. Et dernière devise, par exemple, d'une amie qui habite Conflans-Sainte-Honorine, dès que quelque chose va très bien, elle dit « quoi de mieux encore ?» Et effectivement, elle a une vie fabuleuse.
Mais bon, à n'importe quel âge, pour terminer, on peut changer de vie ?
On peut changer de vie à n'importe quel âge, oui, oui. Très très jeune, très âgé, n'importe quand, oui.
C'est toujours possible. Merci beaucoup, Saverio Tomasella, d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle pour ceux qui voudraient en savoir davantage votre livre « Ne passez plus à côté de votre vie » paru chez Flammarion. Merci encore.
Merci à vous. Merci.
Dans un instant, notre chronique « Les bobos du quotidien ». Jimmy va nous faire un point sur l'impact des réseaux sociaux dans notre vie. Et il va nous expliquer pourquoi il faut limiter la durée que l'on passe dessus. C'est très important pour notre santé globale, particulièrement chez les jeunes. Restez bien avec nous sur Europe 1. Votre émission Santé, Bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner tous les après-midi. À présent, on va passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Et justement, pour donner le ton de cette chronique, on va écouter la question qui l'a motivée. C'est celle de Timothée. Il l'a laissée sur notre répondeur. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Ma question, elle concerne un sujet que Jimmy a abordé plusieurs fois, notamment le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. C'est vrai que moi et ma famille, et même mes amis, au quotidien, les réseaux sociaux, ça fait partie quasiment de chaque moment de la journée, y compris d'ailleurs pour les obligations professionnelles. Alors je voulais savoir, est-ce qu'il y a une façon peut-être plus intelligente que d'autres de se déconnecter un petit peu de tout ça, tout en gardant à l'esprit que on est bien obligé aujourd'hui, surtout en cette période de Covid, de garder un lien avec les gens. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que les réseaux sociaux en ces périodes de couvre-feu, de semi-confinement, etc. Donc voilà, comment faire pour se déconnecter un petit peu sans le faire trop non plus ? Merci d'avance pour votre réponse et bonne journée à vous.
Alors comment faire sans trop le faire non plus ? On est tous un peu dans ce problème-là de toute façon, surtout en ce moment, Jimmy, il faut dire ce qui est, Twitter, Instagram, Facebook, c'est quand même aussi un moyen, on est tous, il y a un couvre-feu, on a subi plusieurs confinements, c'est un moyen de garder un lien avec les autres, non ?
Je ne sais pas si c'est vraiment un lien peut-être un peu artificiel, puisque vous n'avez pas créé de véritables nouvelles relations, vous n'allez pas nouer de véritables liens avec quelqu'un, vous allez peut-être de façon artificielle utiliser ce qu'on appelle à tort peut-être des réseaux sociaux. Le réseau, ce n'est pas forcément des gens que vous allez retrouver par la suite. Et puis social, pas tout à fait. Twitter, je ne vois pas trop ce qu'il y a de social dessus.
Non, c'est on s'informe surtout.
On s'informe, ouais. Parfois c'est la bagarre. Instagram, c'est l'image de soi et parfois le narcissisme. À croire qu'il n'y a aucun problème dans la vie et qu'il n'y a que des jeunes femmes de 25 ans, toutes zeltes, qui mangent des yaourts et qui sont en pleine santé, mais qui renvoient une image fausse. Et puis quand on les regarde, on se dit mais ma vie est misérable. Donc au contraire, on se rend compte que ça peut être plutôt néfaste pour le cerveau.
J'allais vous le dire, on sait vraiment s'il y a un lien scientifiquement démontré entre le temps passé sur les réseaux sociaux et notre santé mentale ?
Il est évident et clairement démontré. La seule chose, c'est qu'on ne savait pas si c'était le fait de passer beaucoup de temps sur les réseaux qui nous rend déprimés ou si c'était l'inverse. Est-ce que comme on est déprimé,
on sort pas on reste que sur ça ?
Exactement. Ouais. Eh bien, les études montrent que finalement, passer du temps sur son téléphone, et plus on passe du temps sur son téléphone, va avoir un impact sur votre santé mentale. Si vous passez plus de 5 heures par jour, et finalement les 5 heures, on les a assez rapidement sur votre téléphone, vous avez une probabilité beaucoup plus importante d'être déprimé que si vous passez moins de 2 heures par jour sur les réseaux. Sans parler des effets secondaires sur le sommeil, puisque ces écrans vont agir comme des voleurs et des perturbateurs du sommeil.
Des voleurs, carrément. Alors Jimmy, parmi tous les réseaux sociaux qu'on a déjà cités, il y en a d'autres, même moi je ne les connais pas tous, est-ce qu'il y en a qui sont plus nuisibles que d'autres sur notre santé mentale ?
Chacun sa particularité. Je vous parlais de l'image de soi liée à Instagram. Facebook aurait tendance à baisser un peu votre estime de soi, c'est ce que remontent les études. Et Twitter augmenterait votre charge mentale. Donc en fait, à chaque réseau, il y aurait ces particularités. La seule chose qu'il faut faire, c'est peut-être contrôler l'accès et le temps qu'on passe dessus.
Ça veut dire qu'on devrait tous essayer donc de diminuer un peu. On le sait, on a du mal à le faire, mais donc faire cette sorte de sevrage. On sait d'ailleurs si le fait de diminuer le temps passé, à l'inverse, du coup, ça améliore notre santé mentale.
On l'a essayé, on l'a testé chez des étudiants. On leur proposait deux choses, soit de continuer de consommer les réseaux comme d'habitude, soit de se limiter à 10 minutes sur 3 réseaux, Snapchat, Twitter et Facebook. Eh bien, on s'est rendu compte que lorsqu'on diminue à 30 minutes par jour le réseau social,
10 minutes chaque réseau social,
ça fait 30 minutes par jour, et bien au bout de quelques semaines, on a moins d'images négatives de soi, moins de symptômes dépressifs. Et donc finalement, ces réseaux ont un impact contre-productif, surtout en période de Covid, on a besoin de liens sociaux et pas artificiel.
Alors, contre-productif, mais je sais que vous m'avez dit que par contre, peut-être pour les personnes âgées, ça vaut le coup de les inscrire, oui. Papier Mamie sur Instagram.
On avait reçu un gériatre qui nous avait dit ça, c'était extraordinaire. Inscrivez
juste
Papier
eux,
Mamie
ouais.
sur Twitter, Instagram. Ils ont plein de recettes, plein d'idées géniales. Vous allez rompre à la fois leur isolement, vous allez vous sentir utile puisque vous allez les valoriser. Et donc, on va tous apprendre des petites choses de nos anciens qui ont encore pas mal de trucs à nous apprendre.
Mais énormément. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo, ce sera juste après un peu de musique. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h et toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed pour accueillir notre dernière séquence de l'émission, mais surtout notre psychanalyste et sexologue préférée, Catherine Blanc. Bonjour.
Bonjour Mélanie, alors, je ne suis pas sûre que vous ayez le choix.
J'en connais pas d'autres en fait, mais
c'est ça. Écoutez, c'est pas
je vous aime beaucoup quand même. Alors Catherine, aujourd'hui on va aborder un grand thème, l'influence, si on a une, du cycle hormonal sur la sexualité, la libido des femmes, et notamment s'intéresser à une période, celle des règles, hein, évidemment ça arrive a priori à toutes les femmes. On a tendance à penser que ben, lorsque les règles sont là, finalement, on met forcément sa sexualité entre parenthèses. Est-ce que c'est vraiment le cas de manière générale?
Alors d'abord il faut comprendre pourquoi on la met entre parenthèses historiquement. C'est tout simplement, même dans, on le voit dans les religions, hein, puisque dans les religions, les grandes religions mettent de côté la femme quand elle est réglée, puisque dans certains lieux de culte, elle ne rentre d'ailleurs pas pour cette raison-là, tout simplement parce que la sexualité étant le moyen de la fécondation, le temps des règles n'est pas un moment de fécondation, donc ça se met tout à fait en marge du cadre de la sexualité reproductive. Ceci étant, à partir du moment où nous avons dissocié sexualité reproductive et sexualité plaisir, se repose la question de la faisabilité. Et là, je crois que c'est un arbitrage propre à chacun, parce qu'on peut aussi arguer du risque de contamination plus important dès lors qu'il y a du sang que quand il n'y en a pas, bien évidemment, et qu'à ce titre, encore une fois, on puisse mettre entre parenthèses ce temps de la sexualité.
Est-ce qu'on peut imaginer une influence du désir de la femme au moment du cycle? C'est-à-dire, est-ce que pendant l'ovulation, il y a quelque chose qui se passe où la femme a envie d'un rapport sexuel pour dans l'idée de procréer, puisque génétiquement, on serait programmé pour faire ça.
Un peu comme les animaux, mais enfin, on est des animaux.
Non, mais est-ce qu'on peut imaginer ça, ou est-ce que c'est complètement farfelu, d'ailleurs, peut-être que je vous
si,
dis...
Les études montrent qu'effectivement, le désir est plus important dès lors qu'une femme est en phase d'ovulation, et on le comprend pour des raisons hormonales, tout simplement, sauf que la psychologie vient parfois bousculer les choses. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui, dès lors qu'elles sont réglées, n'ont aucun désir. De toute façon, elles sont parfois dans la difficulté, la souffrance ou l'inconfort physique, donc ça ne prête pas à une envie de sexualité. Et d'autres, quand elles ovulent, qui serait le moment justement optimum pour la sexualité, à ce moment-là, elles ne sont pas bien, elles aussi, parce que justement, c'est le phénomène justement du projet de la que pourrait permettre la sexualité, à savoir de la maternité, qui peut être source d'anxiété. Et du coup, ce sont des femmes qui évitent systématiquement le moment optimum. Donc c'est ça qui est assez difficile quand on travaille, que ce soit du point de vue physiologique ou du point de vue psychologique, puisqu'il y a la réalité physiologique avec ses possibles, et il y a tous les détournements psychologiques que nous pouvons mettre en œuvre pour éviter ou au contraire satisfaire ce que la nature aurait tendance à ouvrir de champs de possibles ou de fermer, le cas échéant.
Est-ce que nos hormones dirigent finalement un peu notre libido, notre sexualité? Je veux dire, là, on a parlé de choses normales, quand une femme ovule, a ses règles, etc. Mais il y a des femmes qui ont des dysfonctionnements, qui ont des problèmes de fertilité, qui ont des problèmes hormonaux. Est-ce que ça aussi, ça peut perturber la libido, par exemple?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, encore une fois, on est capable aussi de se programmer envers et contre tout, mais la réalité, c'est que la sexualité n'est pas qu'une question simplement d'un projet. Tiens, si aujourd'hui, je faisais l'amour, c'est aussi un élan du corps, et on le voit d'ailleurs, c'est toute la difficulté de la ménopause par exemple, on le voit chez les femmes quand elles sont en aménorrhée, où elles sont très sèches, souvent très, très maigres, et donc du coup le corps a du mal à fabriquer ses hormones pour être dans un confort tout simplement, et tout un confort du corps fait aussi le peu de disponibilité à la sexualité. Donc ce n'est pas qu'une histoire, la sexualité n'est pas qu'une histoire hormonale,
mais
sinon
quand même,
tout s'arrêterait dès lors que les hormones ne sont plus à l'ordre du jour, donc à la ménopause. Mais quand même, ils sont extrêmement participants, non seulement de l'élan, mais aussi de la du bon fonctionnement, notamment de la lubrification.
Et du coup, est-ce que les rapports sexuels sont impossibles ou c'est incompatible avec les règles, en dehors de l'aspect que ça va un peu tacher les draps, mais bon...
Alors d'abord, à partir du moment où une femme est excitée, de toute façon, le fait qu'elle soit tout d'un coup très lubrifiée a tendance à stopper le flux sanguin. Donc ce n'est pas nécessairement un moment...
Ce n'est pas une scène de crime obligatoirement.
Non, ce n'est pas obligatoirement une scène de crime. C'est-à-dire qu'en général, effectivement, on est dans quelque chose qui est plutôt retenu. Néanmoins, il y a des pertes de sang. Et là, encore une fois, je crois qu'il faut comprendre que pour l'imaginaire de tout le monde, d'une femme comme d'un homme, ce peut être très angoissant pour un homme de faire l'amour à une femme qui est réglée parce qu'il peut avoir une idée d'être dangereux pour elle, de lui faire du mal, puisqu'il y a une preuve sanguinolente. D'autres, au contraire, qui nourriront leur fantasme, justement, de déflorer, même quand il n'y a rien à déflorer, puisque la femme n'est pas vierge. Et pour des femmes, ça représente aussi une idée de ce qu'elles contiennent. Pour certaines, ce n'est pas quelque chose qu'elles ont envie de partager, parce qu'elles ont envie, justement, de se sentir toutes propres, non pas que le sang soit sale, mais du coup, prêtes à être embrassées, touchées, caressées,
chacun fait un peu
etc.
comme il veut, hein, c'est ça, pour tenir, bien sûr, et ne pas aller contre ses propres envies ou dégoûts, quoi. Hein,
et encore une fois, une femme s'appartient et elle n'impose pas elle ne se laisse pas imposer quelque chose qui ne participerait pas de son élan et elle ne l'impose pas à un homme qui aurait le droit d'en être dérangé.
Très bien, merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Alors là, on va parler, c'est une spéciale poison, hein, l'affaire des poisons. Ils ont été empoisonnés. Non. Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII, elle est morte empoisonnée, mais on ne sait pas qui lui a refilé le mercure. Georgi Markov, c'était en pleine guerre froide. Et alors vous, qui a été empoisonné?
Il n'est pas mort, c'est Robbie Williams, votre idole.
Oui,
le
j'adore.
Mien aussi, vous adorez. Vous savez qu'il a failli décéder, notre pauvre Robbie.
Ah bah
il s'est empoisonné au poisson.
Il est toujours là, rassurez-moi.
Il s'est empoisonné, il a fait une cure.
Empoisonné.
Et il a voulu manger trop de poisson comme nouveau régime alimentaire et intoxication au mercure, il aurait pu y passer.
On aime bien les histoires d'empoisonner, les poisons. Jimmy, il adore aussi toutes ces histoires-là. Donc on va rester
dites
bien
à Jimmy
sûr.
D'écouter aussi.
Demandez-lui à Jimmy si c'est bon de manger du poisson trois fois par jour.
Il va nous dire trois fois par jour, ça me semble un peu beaucoup. Je suis pas médecin, mais je pense que je peux l'affirmer. Allez, plus de légèreté et beaucoup d'humour. Vous restez bien sûr sur Europe 1.